Bien, bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués de près. Et rebonjour aux autres aussi. En même temps, je vérifie juste que ça marche, donc c'est bon. J'entreprends de poursuivre un propos que j'ai entamé la fois précédente, autour de la parole. Et en fait, vous verrez qu'en cours d'année, je pense a priori le prolonger dans différentes directions, mais en alternant aussi avec d'autres choses. Et pour ce faire, je reviens à ce texte du chapitre 4 de l'Évangile selon Matthieu, au début du chapitre 4. On se trouve juste après le baptême de Jésus et de son ministère public. L'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. Mais Jésus répondit : Il est écrit : L'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Alors le diable le transporta dans la cité sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit : Si tu es le Fils de Dieu, lance-toi dans le vide, car il est écrit : Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. Jésus lui dit : Il est aussi écrit : Tu ne forceras pas la main du Seigneur, ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit : Eh bien, tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Alors Jésus lui dit : Va-t'en, Satan, car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Là-dessus, le diable le laissa. Et devant ce texte qui est familier de beaucoup d'entre nous, je pense, j'ai envie de dire, en me mettant dans la peau de quelqu'un qui est peut-être moins familier, que c'est singulier. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. Mais Jésus répondit : Il est écrit : L'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre. Et que c'est singulier, diraient probablement beaucoup de nos contemporains. Et je ne pense pas là surtout ou uniquement à cette première singularité qu'on ressent sans doute quand on est peu ou pas du tout familier du texte biblique, à savoir celle de la personne qui, si elle était devant Jésus, dirait : Bon, ben, ok, tu me dis, il est écrit, ben oui, il y a plein de choses qui sont écrites partout, dans les journaux, sur Internet, sur les panneaux du métro, sur les vêtements même, il y a des choses qui sont écrites. Donc, moi, tu me dis, c'est écrit, ben, moi je te réponds, oui, alors. Alors, il s'agit bien d'entendre que quand Jésus dit « il est écrit », il fait référence ici à la Bible et à ce que les chrétiens appellent le Nouveau Testament. Pardon, merci. Boum. À l'Ancien Testament, et qu'on qualifie parfois de Premier Testament aussi dans un souci relationnel avec le peuple juif. Bon, voilà. Donc voilà, ça on peut l'expliquer, on peut le dire assez vite. Mais déjà, en disant ça, on touche à cette singularité que j'évoquais et je dirais on y touche à la puissance 3. Je ne sais pas ce qu'il y a. Oui, c'est ça. C'est que Jésus cite coup sur coup trois passages. Et c'est surtout ce à quoi je veux nous rendre sensibles, c'est avec cette façon d'y faire référence, qui montre que cet Ancien Testament, pour lui, il fait référence. Et il fait référence avec une majuscule. C'est de toute évidence pour lui, dans ce cas-là, et on le verra plus loin sur d'autres passages, la référence. Et c'est ça, cette singularité à laquelle je veux nous rendre sensibles. Que ce rapport à l'Ancien Testament, que ce rapport à la Bible, il est singulier aujourd'hui. Parce que, enfin, je ne vous apprends rien, dans notre contexte d'aujourd'hui, ça ne va pas de soi, ça ne va pas du tout de soi. Et je me dis que là, maintenant, en m'écoutant, on me dit, oui, c'est évident, ça va de soi. Mais je vais y insister quand même, parce que c'est, je voudrais que ça passe de la, comme si ça passait de la tête aux tripes, quelque part. Que ça dépasse le cerveau pour nous saisir tout entier. Singulier, parce que la Bible n'est pas du tout, pas du tout, du tout au premier plan de notre vie collective, de notre vie sociétale, de notre vie sociale. Combien de nos contemporains sont en mesure de reconnaître les références qui sont faites? Je sais que au stand, on a parfois fait des tests avec des versets bibliques qui étaient, enfin des textes bibliques qui étaient mélangés avec d'autres textes. Qu'est-ce qui était dans la Bible? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Il y a des formules bibliques qui sont passées dans le langage commun, et puis on ne sait plus que ça vient de là. Jeter la première pierre ou des choses comme ça. Mais on n'est plus en mesure d'identifier cela. Je ne sais plus, je regarde la diapo suivante. Oui, non, pas. Je suis un peu perdu. Donc combien de nos contemporains sont en mesure d'identifier les références à la Bible? Le texte que nous avons sous les yeux, ou sur les yeux, parce qu'il est un peu plus haut que la plupart d'entre nous, enfin je pense tous, sauf pour ceux qui sont à la mezzanine, le texte il est opaque aujourd'hui. Tandis que dans le monde où Jésus évolue, c'est évident, il est écrit, c'est transparent. Aujourd'hui on ne comprend pas. Et en plus, mesurer que Jésus s'y réfère à trois reprises, mais on se dit, mais c'est quoi ça? Quel intérêt? Quel drôle de réflexe? Quel sens ça a aujourd'hui encore de se rapporter à la Bible? Et je crois que c'est vrai de façon générale, et je crois qu'on peut le sentir encore plus peut-être dans cette situation précise que nous avons lue, évoquée. On pourrait se dire, mais voilà, Jésus a faim. Et apparemment, il a à sa disposition les moyens de résoudre le problème. Mettez-vous dans la peau de Jésus. Il a faim. Et on se met dans la... Et j'avais un ami qui était plutôt caustique, qui commençait à lire la Bible. Il dit, oui, au bout de 40 jours, je comprends qu'il ait faim, quoi. Mais oui, au bout de 40 jours, voilà, on n'est même pas obligé d'attendre 40 jours pour avoir faim. Donc Jésus a faim. Et apparemment, il a à sa disposition les moyens de régler le problème. Et puis voilà qu'il refuse d'y avoir recours. Et qu'il le fait en faisant référence à la Bible. Donc il dit non au nom de ce que porte la Bible. Mais qui fait ça aujourd'hui? J'ai envie de dire, j'ai faim, j'ai de l'argent sur ma carte bancaire, sur mon compte, je clique sur acheter la pizza et me la faire livrer. Et je ne me pose même pas la question. C'est quoi ça? Qu'est-ce que la Bible vient faire là-dedans? Et à trois reprises, coup sur coup. Cet étonnement contemporain, et j'insiste sur contemporain, vous allez voir pourquoi, il pourrait être accentué quand un contemporain peut se rendre compte qu'il y a pendant la plus grosse part des 2000 ans qui nous séparent de ce récit, en Occident en tout cas, en France en tout cas, dans les villes, dans les villages, au moins une fois par semaine, c'est en faisant référence à la Bible qu'on s'est réunis. Et parfois même, on s'est réunis chaque jour. Il y avait un office tous les jours. Donc ça, c'est une première chose. Et puis aussi, l'étonnement peut être décuplé par le fait que dans d'autres pays aujourd'hui, c'est encore autour de la Bible que tout le peuple qui se reconnaît dans le christianisme, en Orient, en Occident, au Nord, au Sud, à l'Est, à l'Ouest, se retrouve comme nous le faisons ce matin. C'est la Bible qu'on ouvre, c'est la Bible qui est lue en français, en allemand, en arménien et autres. C'est la Bible qui est commentée en ce moment même. Des millions de chrétiens se retrouvent et se mettent à l'écoute de la Bible. c'est la Bible aussi qui, on peut mesurer aussi son, sa présence dans le fait que pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, c'est la Bible qui nourrit aussi un moment de recueillement quotidien. Peut-être pour beaucoup d'entre nous, sans doute, mais c'est le premier geste le matin, après avoir pris les lunettes, après avoir allumé la lumière, monté le volet, je ne sais pas. Donc la Bible, donc la référence à la Bible, au premier plan de la vie sociale, pendant des années, pendant des décennies, pendant des siècles, et pas en France, aujourd'hui. C'est un phénomène récent, et au point que nos contemporains trouvent cette référence singulière. Et c'est bien sur elle que Jésus s'appuie pour faire des choix. Même le choix de trouver ou de produire, ou pas la nourriture quand il a faim. Et en l'occurrence, ici, le choix de ne pas manger. Et c'est en référence à elle que des millions d'hommes et de femmes ont confié, confient à leur tour tous leurs choix. Et dans le contexte où nous vivons, c'est bizarre, c'est singulier. Je m'y attarde dans le souci de la rencontre avec ces personnes qui n'ont pas cette familiarité. Pour beaucoup d'entre nous, sans doute ce matin, mais tout ça paraît extrêmement ordinaire. Ça va de soi, de se référer à la Bible, de la lire, de la méditer. Ça va de soi, même si on ne le fait pas. Hein, parce que oui, c'est important, et puis bon, je le fais pas forcément tous les jours, je néglige un peu. Mais ça va de soi, c'est pas une anomalie, c'est pas perçu comme une anomalie, même quand on ne le pratique pas toujours comme on voudrait le pratiquer. Mais j'attire notre attention sur le fait que ça ne l'est pas. Et je voudrais nous convier, c'est le langage de communication non violente, on représente souvent les deux personnes comme deux collines, et moi je vois l'autre de ma colline. Je vous vois de ma colline, je vous vois, mais je ne sais pas du tout qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Et pour essayer de comprendre ce qui se passe chez l'autre, il s'agit de monter un petit peu sur sa colline, d'essayer de se mettre à sa place, et de dire, tout à coup on découvre des choses... inattendu. J'ai rendu une visite cette semaine, il y avait un chat ou un chien, je ne sais plus. Donc je regardais mon interlocutrice, en l'occurrence, et puis parfois il y a le chat qui bougeait derrière. Et donc mon regard suivait, et je ne sais pas ce que mon interlocutrice pouvait se dire. Elle dit, mais pourquoi il regarde à côté, là? Je ne l'intéresse plus, ou je ne sais pas quoi. Mais voilà, réciproquement, je ne sais pas s'il y a un oiseau qui passait derrière ou un animal qui passait derrière, le regard aurait pu être détourné, et j'aurais pu me dire, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Mais voilà, il s'agit d'aller s'asseoir chez l'autre et puis de dire, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Sauf qu'on peut pas, évidemment, être assis à deux endroits différents en même temps. Donc j'attire notre attention sur le fait que pour beaucoup de nos contemporains, ce que nous considérons comme ordinaire, ça va pas de soi. Et dans le souci de cette rencontre, dans le souci de tenter de prendre la mesure de la réaction de l'autre devant notre réflexe biblique. Quand j'avais, je crois, 15 ans, j'avais un ami, on lisait de la science-fiction. En fait, moi, je lisais de la SF, et lui, il lisait des Spider-Man et compagnie, là, enfin, les comics, là, les BD. Donc, on échangeait nos choses. Puis Marvel, et voilà. Et puis, un jour, il me dit, j'ai commencé à lire la Bible. Je dis, mon pauvre ami, je me souviens que je me suis moqué de lui, comme du poisson pourri, ou je sais pas trop quoi. Voilà, donc, il a pas continué très longtemps. Mais des années après, c'était moi qui lisais la Bible. Alors, lui, c'était lui qui me renvoyait la balle. C'était bizarre. Curieux, déplacé, mais bon sang, pourquoi faire référence à la Bible? Pourquoi lui faire jouer le rôle de référence dans notre histoire? Je pense que ça suffit là-dessus. Je crois que dire quoi qu'on en pense aujourd'hui, en tout cas, c'est bel et bien, en tout cas, ce que Jésus fait. Et on se rend compte, en lisant ce texte, que l'usage de la Bible devient même délicat, parce qu'on voit que son interlocuteur, son adversaire, en l'occurrence, cite lui aussi la Bible, et sous une apparence, lui aussi, de respect, de révérence, et lui aussi dit, il est écrit. Et Jésus réplique en disant qu'il ne suffit pas de faire référence à la Bible, pour la comprendre et pour l'entendre. Alors, je me suis fixé sur un texte pour voilà, pour focaliser un peu notre attention. Mais en fait, ce que je viens de dire là, on se rendrait compte en poursuivant la lecture du Nouveau Testament, que la Bible, que c'est pas un exemple isolé. La Bible, elle revient régulièrement, elle revient constamment dans la bouche de Jésus. Et elle revient sous le mode de cette référence par rapport à laquelle il se positionne et il construit sa vie. Je parcours juste quelques textes dans les chapitres suivants. Au chapitre suivant, c'est ce qu'on appelle le discours sur la montagne, ou sur la colline, je ne sais pas trop, et on l'entend dire la chose suivante, et c'est impressionnant. « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes, entre parenthèses, à nouveau, ce fameux Ancien Testament. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Oui, vraiment, je vous l'assure, tant que le ciel et la terre resteront sur place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i, n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. » Et Jésus va reprendre dans la suite de son propos plusieurs textes de l'Ancien Testament dans le souci d'en montrer la portée, l'intention. Et donc, il l'endosse pleinement. Et même lorsqu'il dit, à quelques reprises, « Vous avez appris qu'il a été dit ça. » Ici, c'est un texte biblique qui est cité. Donc, « Vous avez appris qu'il a été dit ça. Et moi, je vous dis. » Eh bien, moi, je vous dis. On se rend compte que Jésus n'invalide pas, qu'il n'en dit pas moins que ce à quoi il fait référence, mais qu'il en dit davantage. Et on pourrait, donc ça c'est jusqu'au chapitre 7, et au chapitre 8, on se rend compte que dans un échange, il évoque aussi des personnages de l'Ancien Testament, Abraham, Isaac et Jacob, trois personnages dont il parle comme de personnes qui sont vraies. Il ne dit pas, est-ce que vous pensez un petit peu à Pinocchio, Blanche-Neige, et puis je ne sais pas trop qui. Non, il ne fait pas référence à eux comme ça. Il les considère comme des personnages qui ont existé et dont l'histoire compte et dont l'histoire dont ses interlocuteurs et lui sont appelés à tirer profit, enseignement. Et ça, c'est le chapitre 8, je m'arrête là. Nous pourrons continuer la lecture. Donc Jésus fait référence à la Bible, la Bible fait référence pour lui, c'est elle qui irrigue, qui nourrit sa vie. Et c'est à elle qu'il se soumet, même lorsqu'il est question de manger, qui paraît un besoin bien, bien légitime. Et évidemment, la question, c'est nous. Et puis, que dire par rapport à nos contemporains, pour qui, eux, ça, ouais, c'est trop bizarre, quoi. Alors, je vous livre, comme le reste, mais là, je voulais plus explicitement... Ce que serait ma posture. Pour moi, mesurer cette singularité biblique pour beaucoup de nos contemporains me conduit à interroger cette posture que nous avons parfois devant ceux et celles qui, eux, trouvent ça très bizarre. Et la posture, c'est celle qui consiste plus ou moins à dire à l'autre, mais écoute, il faut croire en la Bible. Il faut croire en la Bible. Et quand cette formule telle quelle, en tout cas, me semble contribuer à un double embarras, enfin deux embarras. Le premier, ça tient au fait que cette Bible, la Bible elle-même, cette Bible en laquelle nous voulons inviter à croire, eh bien la Bible, elle nous appelle, elle, à la foi en Jésus-Christ. Donc la foi chrétienne, c'est pas d'abord la foi en la Bible, c'est d'abord la foi en une personne, Jésus. Et mettre en avant la Bible comme ce qui devrait, lors de l'impératif, faire l'objet premier de notre foi, le centre de l'attention, j'ai peur que ce soit orienter l'attention vers quelque chose d'important sans doute, mais vers lequel la Bible elle-même n'attire pas tout de suite l'attention. La Bible joue un rôle important, oui, et en même temps, et je prends la fin de l'Évangile selon Jean, c'est ce qui est projeté en bleu. En même temps, ces choses ont été écrites pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Donc la foi chrétienne a pour objet, vise d'abord une personne. Et la Bible, alors, joue un rôle essentiel sans doute, mais elle a pour vocation d'accompagner le cheminement vers cette personne, de porter une démarche de recherche, une démarche de foi. Ça, c'est le premier embarras pour moi. Donc la Bible elle-même nous invite à regarder Jésus-Christ. S'il y a un objet de foi, ou un sujet de foi, une personne, c'est Jésus-Christ. Premier embarras. Deuxième embarras, c'est cet usage du « il faut ». Alors peut-être qu'à d'autres époques, ça allait de soi, c'était facile. Donc ce que je dis est probablement conditionné temporellement. Mais je me demande, dire « il faut », est-ce que ça aide ? Dire « il faut croire ce que dit la Bible », »,« il faut croire en la Bible », est-ce que ça aide les personnes dans leur quête, dans leur recherche de Jésus et dans leur recherche de foi ? Est-ce que ça aide les personnes pour qui, justement, la Bible et Jésus, ça ne va pas de soi ? Je crois que la confiance, que ce soit à l'égard de la Bible ou à l'égard d'une personne comme vous et moi, ça ne se décrète pas, ça ne s'impose pas. Et pour se confier, pour avoir confiance, pour avoir une confiance développée, pour avoir une confiance forte en quelqu'un, simplement qu'on côtoie, mais c'est pas à la première rencontre que les choses vont se passer. C'est au fil du temps, c'est au fil de la familiarité, de la façon dont nous verrons l'autre accueillir notre tristesse quand nous sommes tristes, d'accueillir la confidence que nous lui faisons, la façon aussi dont nous le voyons la garder ou ne pas la garder. Et donc il me semble, et je vais reprendre le verbe, mais il me semble qu'il faut, oui, il faut ordinairement du temps, il me semble. Et demander du coup de but en blanc cette confiance en la Bible à des personnes qui n'en savent mais quasiment rien, qui commencent à peine à la découvrir, c'est à mes yeux, pour reprendre un peu une image que Willy avait employée pendant une AG une fois, je l'ai gardée. C'est un peu comme quand on a des carottes qu'on veut faire pousser, c'est comme si on essayait de tirer sur la tige pour qu'elle pousse plus vite. J'ai peur que ça contribue à mettre la charrue avant les bœufs, de façon générale. Après, il y a peut-être des personnes pour qui ça... Il y a des banco, franco, comme ça, je ne sais pas. Donc voilà le double embarras. Et ça m'amène à dire deux choses. La première serait à l'adresse de ceux qui, parmi nous, peut-être sont en quête, dans leur foi, justement, en quête de foi même. Et puis ceux parmi nous qui chercheraient à les accompagner, ou à dialoguer avec nos voisins qui sont extérieurs. Donc aujourd'hui, il ne me paraît pas très opportun de demander à une personne qui ouvre la Bible, qui la découvre, d'avoir d'emblée une confiance forte en la Bible. Mais je crois, par contre, je pense que ce n'est pas forcément un problème, hein, parce que je crois qu'en fait, la confiance minimale, quand on ouvre un livre, vous prenez un livre à la bibliothèque, le journal, vous achetez le journal au kiosque, vous le prenez, vous l'ouvrez avec une confiance minimale, d'emblée. Si vous l'avez acheté, si vous avez pris le livre, si c'est pas un roman, si c'est pas de la science-fiction, si vous savez, vous prenez le livre, a priori, si c'est une biographie, je sais pas ce que ça peut être, on prend le livre avec une confiance minimale et on commence sa lecture juste avec cette confiance minimale. Peut-être si on nous pose la question, on nous dirait, ben oui, on n'est pas sûr qu'ils nous disent que des choses vraies à chaque page, mais c'est pas ça. On rentre dans la lecture quand même. Ça se passe juste comme ça. Je crois que la personne qui va ouvrir la Bible, de façon générale, elle a cette confiance minimale qui est suffisante pour commencer à cheminer. La personne peut ouvrir un livre, quel qu'il soit, ou la Bible par intérêt, par curiosité, sauf si on est déjà avec des a priori, mais en général, on ouvre la Bible de manière bien disposée, hein, et avec une certaine confiance minimale. Et j'ai envie de dire, le cheminement commence. Et sans que ce soit une preuve béton de... voilà, mais je crois aussi qu'on doit reconnaître qu'il est commun, relativement commun, de rencontrer au cours de l'histoire des personnes qui se sont juste mises à lire la Bible comme ça, par curiosité. Peut-être même parce qu'elle a eu tant de place dans l'histoire occidentale, mais bon, on ne peut pas négliger ça, enfin... qu'on soit d'accord ou non avec la Bible, peu importe, mais ça a de la place dans l'histoire. Tiens, je suis curieux, j'ouvre la Bible, qu'est-ce qu'il y a dedans? Et c'est beaucoup, beaucoup de ces personnes-là mais se sont trouvées, conduites, petit à petit, vers quelque chose qui est de l'ordre d'une rencontre. C'était au départ comme une lecture un petit peu de l'extérieur. Et puis, ça a conduit ou pas, hein, ça dépend des cheminements. Parfois, c'est un éblouissement intérieur, une voix. Voilà, c'est quelque chose qui s'est passé. Ça peut être des rêves. Ou bien, ça peut être des questionnements d'ordre plus interne, plus intérieur, plus existentiel, devant ces personnes qu'on rencontre, qui nous ressemblent étrangement, qui nous interrogent étrangement. Jésus ne laisse pas indifférent, en général. On se trouve conduit. On en est soi-même le premier surpris à des questionnements plus personnels. Et souvent, dans un certain nombre de cas, en tout cas, à être ému, à être bouleversé, à être bousculé par cette lecture, devant ce qui est raconté à propos de Jésus. Et au point, et de manière étonnante, d'en arriver à faire appel à Jésus et à placer sa confiance en lui. Donc vous découvrez la Bible, si vous la découvrez, eh bien continuez. Continuez votre découverte, je vous y encourage. Et je dirais qu'en la fréquentant, et comme en fréquentant une personne, on arrive à plus de familiarité au fil du temps, et je ne serais pas surpris, en tout cas pour ma part, que cette familiarité vienne avec elle, une familiarité qui grandira à son rythme, et avec tout ce que peut produire une familiarité. Donc première chose, ce serait ça, pas forcément besoin d'une confiance optimale pour lire la Bible. Elle est là et il se passe des choses en la lisant. Deuxième chose, c'est que dans le texte que nous avons lu, eh bien nous voyons un des points d'aboutissement possible de cette familiarité, au travers de l'exemple de Jésus lui-même. La familiarité qu'il a pu acquérir avec la Bible, elle apparaît chez lui, elle s'épanouit chez lui. On le voit ici, il a faim, et au nom de la Bible, il ne mange pas, quoi. Cette familiarité qu'il a avec la Bible, et avec le Dieu qui porte la Bible, s'épanouit chez lui dans un attachement fort à la Bible, un attachement à la Bible comme point de repère, comme point de référence et comme parole de vie. Il faut croire en la Bible comme une parole de vie pour refuser de faire venir la pizza alors qu'on a faim. Il y a quelque chose de l'ordre de la vie qui est en jeu là. Nous entendons Jésus dire, il est écrit, et ça se négocie pas, ça se transige pas. Et nous l'entendons dire, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la Bible, ni même un point sur un i n'en sera supprimé. Donc confiance optimale de Jésus par rapport à la Bible. Et je dirais à ceux d'entre nous qui en sont venus à cette confiance en Jésus, au point d'être prêts à dire à leur tour « Mon Seigneur et mon Dieu », comme dit un des disciples après la résurrection, devant l'évidence. Oui, quelqu'un qui est ressuscité, on a du mal à dire « ouais, j'y crois pas » quand on est devant lui. Eh bien, à travers ce que nous voyons de Jésus, voyons encore une fois que celui que nous appelons notre Seigneur et notre Dieu, que nous nous engageons à suivre, voyons la confiance que Jésus a en la Bible. Et je dis, qu'est-ce qu'il en est pour nous? Donc, si je ramasse les choses, j'ai envie de dire, je ne crois pas d'abord en la Bible. Je crois en Jésus-Christ. Et c'est lui, c'est de lui dont je cherche à être le disciple. Lui que je veux suivre. Essayer de suivre. Réessayer de suivre si je me suis écarté. Et parce que j'en suis venu là, je suis invité, justement en plaçant mes pas dans les siens, à avoir cette confiance qu'il a à l'égard de la Bible et à m'y soumettre. Et c'est pas parce qu'on m'a répété que depuis mon enfance, si c'est le cas, très bien si on l'a fait, c'est pas mécanique, c'est pas parce qu'on me l'a répété depuis mon enfance, il faut croire en la Bible. Mais si je le crois, c'est parce que je vois Jésus vivre ça. Jésus répond aux suggestions qui lui sont faites. Il est écrit, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Je propose un petit moment de silence ou de prière libre aussi. Là où l'autre veut prier, qu'il puisse le faire.